Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lumière à nos pieds, une lumière, Seigneur, sur notre sentier, Seigneur. Merci parce qu'elle nous conduit dans la vérité et c'est cette vérité qui nous libère, c'est cette vérité qui nous console, c'est cette vérité qui nous donne cette espérance et cette foi, Seigneur, en Dieu. Merci, Seigneur, pour ta parole, que ce soit vraiment ta parole qui soit prêchée ce matin, Seigneur, et uniquement elle, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, je voulais vous parler, dans les circonstances que nous vivons, de la bienheureuse espérance. Hein ? On ne va pas se laisser abattre. Bienheureuse espérance. Sur le site de l'Église, il y a l'annonce faite du décès de Jean Robert, enfin pas du décès, en fait, du retour vers sa patrie céleste et vers son Père céleste. Et j'ai mis un passage de l'Évangile de Jean. Et la Bible est le livre le plus lu dans le monde, mais hélas, la Bible a été traduite. À la lire. Alors, j'imagine si on devait la lire dans le grec ancien et dans l'hébreu biblique. Mais vous allez voir où je veux en venir. Parce que quand on la lit dans la langue originale, il y a des pépites que vous ne cernez pas du tout en français. Ou qu'on effleure à peine, ou qu'on passe complètement à côté, parce que ça n'apparaît pas du tout dans la langue française. Ce n'est pas la faute des traducteurs, parce que les traducteurs manquent de mots. Et il y a un mot qui manque dans la traduction française. Quand on parle de mort en France, en français, pardon, on parle que de la mort. Or, en grec, pour la mort, comme pour l'amour, il y a plusieurs mots différents. Et on va regarder ça, hein, parce que je pense qu'il y en a qui le savent, il y en a qui le savent moins, il y en a qui ne savent pas du tout. Mais du coup, je profite de cet événement pour vous parler de la mort. Mais pas la mort telle que les Occidentaux la voit, mais la mort telle que la Bible et que Dieu voit. Alors on va commencer par l'évangile de Jean, chapitre 11. L'évangile de Jean, chapitre 11, ça parle justement d'un décès, celui de Lazare. Alors je ne vais pas lire tout le texte. Vous savez que Lazare était un ami de Jésus et il avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et Marthe et Marie avaient envoyé un message à Jésus en disant « Ton ami Lazare, notre frère, est malade. Viens vite » parce que ses sœurs croyaient quand même que Jésus était le Messie et qu'il pouvait le guérir. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté en Galilée le temps que Lazare meurt. Il dit, Jésus, qu'est-ce que tu fais là? Et Jésus dit, Lazare, il n'est pas mort. Il dort, mais allons le réveiller. Alors, au verset 25 et 26, donc c'est la sœur, c'est Marthe, qui arrive là, et puis que Jésus dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oui, je sais, mais lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Alors je vous pose la question, croyez-vous cela? Amen. Pourtant, Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Pourtant, plein de chrétiens sont morts. Un paquet. Depuis 2000 ans, il y a un paquet de chrétiens qui sont morts dans différentes circonstances. Et Jésus dit, celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça nous a interpellés, mon épouse et moi-même, parce qu'on voulait savoir ce que ça voulait dire mort. Et en fait, il y a deux types de morts dans la Bible. Et dans ce texte-là, le mot mort ou mourra, c'est aponasco ou aponesco. Je n'ai pas appris le grec. Hein, donc, aponesco, ça veut dire la mort naturelle. La mort naturelle, c'est-à-dire un changement d'état. C'est l'âme qui quitte le corps. C'est la mort naturelle de l'homme. Si on peut appeler ça naturel, effectivement, parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui sont nés. Il y a dans les paquets de cigarettes, il est marqué « fumez-tu ». Mais pour ceux qui sont nés, il est écrit « vivre-tu ». Vivre-tu. Et hélas, nous, dans l'Occident, la mort, c'est quelque chose de grave. Mais pour Dieu, la mort est une suite d'un changement d'état. J'explique. Si vous étiez venu ici, enfin ici ou pas ici, mais un peu plus dans la région parisienne, dans les années 60, pour ceux qui étaient nés, vous auriez vu un bébé qui n'existe plus. Vous seriez venu dans les années 80 en Allemagne, vous auriez vu un soldat qui n'existe plus. Normal, puisque c'était moi. Est-ce que moi, maintenant, physiquement, je ressemble au bébé des années 60? Est-ce que je ressemble au jeune homme des années 80? Quand on regarde les photos, vous voyez, ça fait mal, les photos. Même les vidéos, c'est encore pire. La personne qui était bébé, ce bébé n'existe plus. Est-ce qu'il est mort? Non, il n'est pas mort. Si, physiquement, on ne le voit plus, hein, c'est une séparation, il n'est plus là. Il y en a qui aimeraient des mères de famille, notamment les mères juives, qui aimeraient que leur fils, « Oh, mon fils, il reste petit, il reste longtemps à la maison. » Mais non, le bébé grandit, il change, il mute. Et la mort est l'ultime mutation, où effectivement, il y a la tristesse, et ça, c'est vraiment... C'est là ce qu'il y a de plus terrible dans la mort, c'est la tristesse de la séparation, mais pas la tristesse définitive de cette séparation. Parce que aponesco, ça veut dire juste un changement d'état, comme la chenille change d'état et devient un papillon. Quelqu'un qui meurt, effectivement son corps est là, il a changé d'état, il y a la chrysalide qui reste, mais son âme, sa personnalité est auprès de Dieu et dans le cœur de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. On peut le lire aussi dans Marc. Alors dans Marc, on va lire l'évangile de Marc. Il y a des passages comme ça bizarres qu'on lit. Marc au chapitre 12, au verset 26. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, dans la Torah, ce que Dieu dit à propos du buisson ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac est le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Pour Jésus, comme pour Dieu, même si les personnes ont disparu, Abraham, Isaac et Jacob, à l'époque de Jésus, ils avaient disparu. Ils étaient morts. Et pourtant, Dieu dit, à l'époque de Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. » Et on pourrait dire de cette grande lignée de témoins, cette grande lignée de héros de la foi, qui sont physiquement plus là, mais qui sont vivants. Parce que Dieu est le Dieu des vivants. Il ne parle pas « j'étais le Dieu d'Abraham ». Il ne dit pas ça. Il dit « je suis encore le Dieu d'Abraham ». Dans Jean 8, 51, l'évangile de Jean, au chapitre. Jean 8, 51. Il est dit. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et là, je regarde la traduction de mort. C'est une autre traduction. C'est plus aponasco. C'est thanatos. Thanatos. Ça vient de thanasie. Quand on parle de thanasie, thanatos, c'est du grec. Comme vous savez que notre culture est basée sur le grec. Thanatos, j'ai regardé ce que ça voulait dire, quand même. C'est complètement différent. C'est l'autre mot qui désigne la mort. En fait, ça veut dire être dans le shéol, dans le séjour des morts, être détruit, être perdu, et être une âme misérable du méchant dans le séjour des morts. Dans l'Hadès, qu'ils disent en grec. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort, mais dans le sens condamnation, du mauvais côté, dans le sens en attente du jugement de Dieu. Les deux mots. Aponasco, c'est la mort. Tout le monde mourra, tout le monde passera par Aponasco. Mais Dieu, par le sacrifice de son Fils et du Messie Jésus-Christ, dit que si quelqu'un garde sa parole, il ne verra jamais le thanastos, le séjour des morts et la condamnation. Et ça, en français, on ne le voit pas. Parce que moi, j'ai gardé la parole de Dieu, pourquoi je verrai jamais la mort ? Ben si, je vais mourir. Forcément, un jour, comme tout le monde, puisque vivres-tu. On va tous passer, sauf si le Seigneur nous enlève, on va tous passer par Aponasco. D'ailleurs, on va le lire dans 1 Thessaloniciens, et c'est ce que disait Paul au chapitre 4. Nous ne voulons pas, au verset 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc là, et en plus, c'est encore plus fort, c'est dormir, c'est même pas mort, c'est d'être dans le repos. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alors là, il parle aux Thessaloniciens qui sont aussi dans la pensée grecque. Hein, c'est que ceux qui n'ont pas d'espérance, la mort est une véritable catastrophe. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts, ceux qui sont aponasco, pas ceux qui sont thanatos. Ceux qui sont aponasco, Dieu les ramènera. Et nous, les vivants, voici en effet ce que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Là, c'est komaios, koimao, c'est au pluriel. C'est pareil, c'est la même mort naturelle qu'à Ponasco. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur, toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Les Thessaloniciens étaient grecs et je ne sais pas pourquoi Paul a écrit ça, mais sûrement qu'ils l'ont interrogé sur ceux qui étaient morts, sur la résurrection des morts. Et en fait, là, nous, on a pris ce passage-là surtout pour un passage qui est pour l'enlèvement de l'Église, mais en fait, c'est un passage sur la résurrection des morts, en réalité, sur la résurrection future des morts. Le thème principal, c'est la résurrection des morts. Après, pour ceux qui seront restés vivants à ce moment-là, ils seront enlevés, ils seront changés aussi. Ils participeront à la première résurrection. Dans Psaume, là je passe dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, psaume 116. Et au verset 15, il est quand même dit quelque chose. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Le passage de la vie à la mort, même si c'est un passage, je dirais, naturel, aux yeux de Dieu, elle a du prix. Elle a du prix. Et ce prix, vous savez ce que c'est, ce prix ? C'est le sacrifice de Jésus. Et c'est ce qui fait la différence entre aponasco et thanatos. Ceux qui ont, dont la rançon a été payée par Jésus-Christ sont aponasco, sont morts aponasco. Ceux qui ont refusé le sacrifice de Jésus ou qui sont restés dans l'incrédulité vont mourir thanatos. C'est là qu'il est important et c'est là que on rejoint Jean 3,16, vous connaissez tous Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. En grec, le péris, verbe périr, c'est apoloumi. Je reprends les grecs, hein. Apoloumi, et ça veut dire quoi apoloumi? C'est terrible. Ça veut dire démolir entièrement. Démolir entièrement, ça veut dire être perdu éternellement, ça veut dire être détruit complètement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, je vais changer le terme, ne soit pas détruit complètement, perdu éternellement, démoli entièrement. qui ne soit pas Thanatos. Thanatos, pardon, pas Thanatos. Thanatos. Vous comprenez la nuance et la bienheureuse espérance que nous avons, enfin j'espère pour chacun d'entre nous. L'approche de la mort est complètement différente. Pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur, c'est un passage. Un passage vers l'inconnu, effectivement. C'est une séparation aussi. Mais c'est un passage vers une autre étape qui, je pense, est beaucoup plus glorieuse. Par contre, pour ceux qui n'ont pas accepté ou qui n'ont pas suivi ou qui étaient dans la crédulité, c'est un passage plus difficile. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre, parce que si la mort, c'était rien pour tout le monde, pas pourquoi il serait mort sur une croix. Qu'il aurait versé son sang et qu'il serait ressuscité. Donc je voulais vraiment vous parler de ces deux choses. Dans Philippiens, c'est ce qu'avait compris Paul, hein, quand vous le lisez bien. Philippiens chapitre 1 et au verset 21. Car Christ est ma vie. Amen. Dans Galates 2:20, ils disent, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous le connaissez ce passage ? Et la vie que je mène, c'est la vie du Fils de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est ma vie. Et aponasco, m'est un gain. Il n'a pas dit tamatos. Hein. Et aponasco, m'est un bien, m'est un gain. Mais si il est utile pour mon œuvre que je vive encore dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec le Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, et le meilleur. Mais à cause de vous, il est encore plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Pour Paul, ce n'était pas un problème, la mort. De toute façon, je vous ai lu la dernière fois, c'est légère affliction. Hein, se faire lapider, faire naufrage. Pour lui, c'était des légères afflictions. Donc, pas mal, même pas mal. Donc, la mort m'est un gain. Mais pas n'importe quelle mort. Aponasco m'est un gain. Parce qu'il savait où il allait, Paul. Par contre, bon, bah, s'il faut que je reste, on va rester. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Vincent ? On reste ? Ouais. Enfin, on ne sait pas. Hein. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Voyez le rapport que quelqu'un qui est en Christ peut avoir avec la mort. Ce n'est pas une catastrophe, mais c'est une bienheureuse espérance. Et c'est cette bienheureuse espérance que je voulais partager avec vous. Quoi. C'est pas, bah oui, on a prié pour Jean Robert qui guérisse, il s'est endormi. Mais c'est pas, volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est pas une catastrophe, puisque pour le Jean Robert, c'est la plus belle des choses qui peut arriver. Par contre, pour Yolande, c'est une séparation douloureuse, oui, effectivement. Pour les enfants, pour les petits-enfants, bah, ils ne verront plus leur père, leur grand-père, leur mari. Ça, oui, c'est temporaire. c'est temporaire. Et c'est vrai qu'une séparation, bah, il est parti en voyage. Mais voyez, ce que je voulais vraiment vous dire, cette bienheureuse espérance que nous avons, et je bénis le Seigneur que nous ayons connu Jésus-Christ, que nous ayons, nous, soyons pas comme ceux qui périssent, mais qui connaissons cette bienheureuse espérance. Et cette bienheureuse espérance, nous l'avons, que nous vivions ou que nous mourions, nous l'avons. Et pour conclure, je vais finir par un Corinthien. Chapitre 15 et au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Vous vous souvenez que je vous avais prêché que le salut était en trois phases? La justification en Jésus-Christ, c'est ce que je vous ai dit, c'est le prix à payer. La sanctification et la résurrection des morts. La résurrection des morts, personne n'y est passé encore, puisqu'elle aura lieu à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la dernière trompette, pour tous. Même pour ceux qui sont encore vivants, ils passeront d'un état à un autre. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est-il semé corruptible? Il ressuscite incorruptible. Est-il semé méprisable? Il ressuscite glorieux. Est-il semé infirme? Il ressuscite plein de force. Est-il semé corps animal? Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et l'aponasco, c'est ça, c'est on laisse notre corps animal et on revêt notre corps spirituel. Quand je parlais du papillon et de la chenille, c'était ça que je voulais dire. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier homme est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel, alors attendez, est-ce que je dois lire ça? Non, c'est en fait, vous pourrez lire la suite, mais c'est ça que je voulais dire. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Ceux qui sont malades, ceux qui sont infirmes, ceux qui voient mal, ceux qui ont des douleurs partout, et en vieillissant, croyez-moi, j'ai une bonne nouvelle, ça ne va pas s'arranger. Eh bien, quand vous passerez dans l'autre état, espérance ce matin, parce que je sais pas, on est de différentes cultures, nous on est grec, siècle des Lumières, la mort c'est une fin en soi, c'est la fin de tout. Bah, pas pour la Bible, ça dépend quelle mort. Donc, bah, écoutez, j'en reste là. Et je vous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen.
Merci Lionel. Ah, c'était bon. Oui, c'est ça.